Vraiment, du fond du cœur, merci de m'accueillir ce matin. Le temps est toujours court et j'ai tellement de trucs à vous partager, mais je sais qu'il y aura d'autres moments. En priant pour vous ce matin et en priant pour l'Église, j'ai entendu le Saint-Esprit me murmurer, il me l'a répété encore durant l'adoration. MDV, tout le monde dit MDV. MDV. Qu'est-ce qu'un MDV ? Un MDV est un moment de vérité. Là, vous pouvez fermer les portes à clé, s'il vous plaît. Ézéchiel 36, au verset 26 et 27, je vais lire pour vous rapidement, mais c'est important qu'on puisse poser plusieurs fondements ce matin. Ézéchiel 36, verset 26 et 27 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'enlèverai votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Je ferai de vous un peuple qui reçoit un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Et je veux faire en sorte que vous viviez selon mes principes, mes standards, mes règles, ma parole, et que vous obéissiez à ce que je dis. La définition que Dieu a de son peuple est très simple, et elle n'est sans aucun compromis. Elle n'a pas de légèreté. On n'est pas censé être un peuple léger. On est un peuple qui a du poids dans l'esprit. Ok, le amen de Suisse n'est pas là, il est... Et en tant que pasteur slash prophète, j'aime provoquer le peuple de Dieu et je vous aime. Et en réalité, celui qui aime provoque. Si tu n'es jamais provoqué par quelqu'un à marcher plus proche de Dieu, c'est que la personne que tu fréquentes ne t'aime pas. Si tu fréquentes quelqu'un et que cette personne ne te provoque pas à marcher plus proche de Dieu, cette personne ne t'aime pas. Et moi, je vous aime. Et donc, je suis provoqué. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu es un disciple ? C'est lui, est-ce que tu es un disciple ? Oh, ok, vous avez parlé très silencieusement. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis-lui, est-ce que tu es un disciple ? Ou un fan. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont là. Moi, je ne fais pas ce que tu dis. Alors, si tu es nouveau dans l'église, c'est cool, je comprends, pas de problème, tu vas apprendre à le faire. Si tu es un chrétien de longue date et que tu ne le fais pas, tu es ce que j'appelle un petit rebelle sympa. La vérité, c'est que la plupart des gens veulent obéir à Dieu, mais ne veulent pas obéir aux hommes que Dieu envoie. Alors ce que nous on fait quand on est prophète ou pasteur, c'est qu'on provoque un petit peu pour voir si... Parce que l'obéissance, ça s'apprend. Jésus-Christ a appris l'obéissance. Vous êtes au courant de ça? Et Bruno nous dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance. Lorsque je suis leader ou pasteur ou même un frère en crise et je provoque, je dis, regarde ton voisin et dis, et que tu ne le fais pas, c'est le toi qui est tellement présent que tu refuses de le faire parce que non, on ne commande pas. Si tu es en France, c'est pire, mais bon... Et ça me révèle beaucoup de choses. Ça révèle que, oh, c'est juste ça qui est simple, qui est même, c'est pas un grand truc, mais c'est simple. Si ça, tu ne le fais pas, il y a de fortes chances que tu auras beaucoup de mal à faire ce que Dieu demande de faire. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à comprendre comment fonctionne l'Église. Lorsque les leaders ou les pasteurs sont envoyés par Dieu pour te former, ils vont faire des choses que Dieu va leur donner de faire pour te former. Et je dis ça hier à l'équipe extraordinaire qu'on a eue hier toute la journée. Je disais, et c'est pour moi une vraie réflexion en ce moment, si je choisis les outils de ma propre transformation, je choisis alors d'être déformé. Les outils que Dieu choisit pour nous transformer ne sont jamais ceux que nous aurions choisis nous. Et donc, ce matin... Puis-je me suggérer comme un outil de transformation? Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Ça ne changera rien. Donc on est prêt. Donc ce matin, on va lire ensemble un passage extrêmement puissant dans Jean 6. Je ne sais pas si ce sera sur vos écrans. Mais moi, je vais lire la version Parole de vie. Et dans Jean 6, il est dit ici Jésus leur répond, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu, mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain que donne la vie, verset 47, c'est moi. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je lui donnerai, c'est mon corps, je le donne pour la vie de ce monde. Verset 51, il dit, « Alors les Juifs se disputent, ils disent, comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger ?» J'aime Christ, il est trop cool. Jésus leur dit, « Je vous le dis, c'est la vérité, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours, et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Oh, mon corps est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. » What? Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples, tout le monde dit beaucoup. Beaucoup de ses disciples disent, ces paroles sont dures à entendre, qui peut continuer à les écouter? Et Jean 6, 66, intéressant comme chiffre. Il est dit, à partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ne l'accompagnent plus. Bon, le contexte est magnifique. Jésus, entre Jean 1 et Jean 6, a construit ce qu'on appelle une foule en délire. Les gens viennent par milliers, il les nourrit par milliers. Les gens écoutent les paraboles, les messages, voient les signes, les prodiges. Il y a une foule partout. Et Jésus a étudié à l'école du leadership. Puisque Jésus maximise le nombre de gens en prêchant un message de ouf. Au moment où il y a le climax, où le maximum de gens est autour de lui, la plupart des pasteurs qui ont étudié en leadership vont dire, bon maintenant, il faut faire des choses qui puissent encore plus grandir, on va doubler. Et Jésus lui dit, ok, mange mon corps, bois mon sang. Et il prêche un message qui va tellement choquer le peuple en délire que beaucoup de disciples le quittent. Jésus, à ta place, moi j'aurais suivi les cours de leadership. Et ce matin, je vais vous provoquer un peu à réfléchir avec moi. Quel est le vrai Jésus que nous servons? Qui est le vrai Jésus que nous suivons? Jésus ne changera jamais ce qu'il prêche pour augmenter la foule. Jésus gardera ce qu'il prêche pour trouver des disciples dans la foule. Et vous savez, j'ai vécu ces moments de vie plusieurs fois ces derniers temps. Dieu m'a demandé plusieurs fois, il m'a dit, Bruno, est-ce que tu es prêt à changer pour vivre selon mon message? Parce que moi, je ne suis pas prêt à changer mon message. Il m'a dit, je veux que tu commences à réellement réfléchir, penser, voir avec mes yeux quel Dieu je suis réellement. L'Église de Christ a besoin de trouver ou de retrouver du poids spirituel. Alors que je priais un jour, Dieu me dit, Bruno, tu aimes trop la foule et moi j'aime le peuple, ça n'a rien à voir. Le peuple parle de ces hommes et ces femmes qui sont connectés avec un seul désir de plaire à Dieu. La foule, c'est des gens qui viennent un peu pour plein de raisons. C'est donne-moi à manger, nourris-moi, je veux du spectaculaire, c'est super, le gars est cool, le pasteur est beau. Je parle de Nicolas Lehmann, bien entendu. Vous savez, on doit ce matin avoir ce que j'appelle un moment de vie, un face-à-face. Avez-vous ici en Suisse des face-à-face politiques? Vous savez ça, hein? En général, on ne met jamais deux personnes qui pensent pareil en face. Oui, non. Parce que le débat serait vraiment nul. Je pense que oui. Ouais, moi aussi. Ah, ok. Je pense que oui, ben moi aussi, il n'y a pas de débat. Les face-à-face existent parce qu'il y a des opinions contraires. Quand on a un face-à-face avec Dieu, on est en train de dire, Seigneur, j'ai une opinion contraire par rapport à la tienne et je veux bien que la tienne va détruise la mienne. Je veux dire par là qu'un face-à-face avec Dieu ne va jamais te laisser indemne. Un face-à-face avec Dieu signifie que tu as changé ta façon de penser et pas lui. On a souvent des face-à-face avec Dieu et on veut que Dieu épouse notre façon de penser. Moi, j'aime bien aider Dieu. À chaque fois que je veux aider Dieu, Dieu me dit, écoute, qui est sur le trône, toi ou moi? Alors, par définition, ce matin, on va voir ensemble quelques points rapides sur qu'est-ce qu'un fan et qu'est-ce qu'un disciple. Et si vous avez un cahier, un stylo, s'il vous plaît, ou un iPad, un iPod, un Samsung, écrivez quelque part. Si vous voulez rien, prenez un stylo, écrivez sur le bras du voisin, vous le retrouverez. Mais je vous demande ce matin de prendre la parole au sérieux avec moi. On a un peu d'humour, c'est sûr, mais je veux vraiment que nous soyons ce matin face à ce que j'appelle un moment de vérité. Les moments de vérité génèrent la vie. Les disciples de Christ sont des hommes et des femmes en puissance, qui sont droits dans leurs bottes, qu'ils savent ce qu'ils pensent, ils aiment Jésus-Christ, ils n'ont pas de compromis. Comme en Suisse, pas de compromis. Permettez-moi de vous taquiner un petit peu pour vous encourager à réfléchir avec moi. Dis à ton voisin, ouh, là il est sérieux. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour récolter une foule de fans en délire. Il est mort sur la croix pour élever une armée de disciples. Il n'est pas mort sur la croix, et j'aime l'église, hein, mais il n'est pas mort sur la croix pour que nous ayons du fun avec les chants et les super chants. Et merci Charlie pour ce chant extraordinaire. Ce chant-là, on le chante régulièrement à Extravagance, et quand on le chante, moi je pleure, je dis c'est ça le chant. Parce que les paroles sont très profondes, très vraies. Mais le Seigneur n'est pas mort sur la croix pour que vous et moi, nous ayons du bon temps dans une bonne église. Gloire à Dieu pour ces gens qui passent des heures au téléphone pour encourager, il en faudrait plus comme eux. Et je sais qu'ici, à Auron, il y a un peuple qui aime Jésus. Mais j'aimerais ce matin, avec vous, j'aimerais qu'on puisse se poser la question suivante. Suis-je un vrai disciple de Jésus-Christ? Ou suis-je un fan? Alors les fans vont au ciel, je vous garantis, ils vont au ciel. Mais les disciples amènent le ciel. Dans Jean 3, nous avons cette histoire de cet homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème, il m'a toujours impacté parce que ce monsieur-là est un homme de Dieu à l'époque respecté, un membre du Sanhédrin. Il fait partie de l'élite religieuse de l'époque. Il est l'un des plus haut placés de l'église de l'époque, du peuple d'Israël, si vous préférez. Et il est depuis quelque temps un admirateur secret de Jésus. Il écoute les messages de Jésus, il suit Jésus de loin. Il aime Jésus, mais il n'ose pas trop parler de Jésus en public parce qu'il sait très bien que s'il commence à parler à Jésus ou de Jésus en public, il perdra sa place au Sanhédrin. Mais il est tourmenté parce qu'il aime Jésus, il voit la puissance de Jésus, il se réjouit de voir que Jésus est un homme de Dieu. Il croit, il sait que Jésus est un homme de Dieu. Mais la question c'est, est-ce que Nicodème est prêt à aller plus loin? Est-ce que Nicodème est prêt à reconnaître Jésus comme maître? Est-ce qu'il est prêt à laisser tomber sa place d'honneur dans la religion juive? Est-ce qu'il est prêt à réellement se dire, ok, être disciple de Christ, ça veut dire perdre tous mes avantages. Être disciple de Jésus, ça veut dire refuser à mes avantages. Et permettez-moi ce matin d'émettre une correction à tout le peuple de Dieu, moi le premier. Oui, Dieu nous aime. Et oui, nous avons de la valeur en Christ. Et oui, Jésus nous a transformés et nous transforme toujours aujourd'hui. Mais arrêtons de croire que nous sommes le centre du monde. Arrêtons de croire que parce que nous sommes bons, Jésus nous aime. Non, c'est parce que Jésus nous aime que nous devenons bons. Hello. Et c'est très subtil parce qu'on prêche un message pour que les gens se sentent bien, se sentent bons. Hey, mes amis, tu sais quoi? Sans Dieu, on est totalement, excusez le mot, on est totalement pourri. Sans Jésus, il n'y a rien de bien en moi. Et même quand je suis chrétien et que je commence, et je parle pour moi, quand je commence à m'éloigner de Jésus, cette pourriture revient. Ça n'enlève pas mon salut. Ça fait que je crois qu'il faut retrouver une bonne qualité d'humilité. On dit, Seigneur, je t'en supplie, sans toi, je ne peux rien faire. Un disciple pense comme ça. Un fan pense que c'est cool. Et ce gars-là ici, il me touche. Et dans Jean 3, versets 1 et 2, il dit, parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème, un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il dit, maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous savez ce qui m'a interpellé en lisant ce passage, il y a quelques temps de cela, il dit, tu es un maître, tu enseignes. On sait que Dieu est avec toi parce que tu enseignes. Et à l'instant où je lis ça, Dieu me fait penser à Judas. Judas a côtoyé l'amour chaque jour. Judas a entendu les enseignements de l'amour chaque jour. Mais Judas a quand même trahi l'amour. Vous savez pourquoi ? Parce que tu peux fréquenter ou tu peux servir Dieu en le considérant comme un bon enseignant, mais s'il ne devient pas ton maître, tu finiras par le trahir. Beaucoup de chrétiens aiment l'Église, aiment les messages, aiment être enseignés, mais quand il faut mettre en pratique l'enseignement, c'est une autre histoire. On aime beaucoup entendre des bons messages qui nous font du bien, mais quand il faut payer un prix, c'est une autre histoire. Et, excusez-moi, mais moi, j'ai vu dans ma propre vie, j'ai vu ça plusieurs fois, à chaque fois que j'ai entendu un message, je ne l'ai pas mis en pratique, j'ai fini par trahir le roi. Parce que dans mon cœur, il y a deux maîtres. Il y a Christ et il y a le moi, ma vie, mes choix, mes décisions, mes directives, ce que je veux faire. Vous savez, Dieu ce matin nous dit clairement qu'il nous aime à la folie, mais qu'il y a bien plus pour vous et moi. Et je sais que le mot fan peut un peu choquer, je sais qu'on est un petit peu surpris par le message, mais ma sœur Nicolas m'a dit, Bruno, je veux que tu parles de la part de Dieu, on veut une église de disciples. Je dis, ok, on fonce. Alors si vous n'avez pas le message, c'est de sa faute. Écoutez-moi bien, j'ai écrit pour vous quelques points que je vais lire avec le plus de joie possible. Un fan, écoutez-moi bien, un fan ne veut pas de questions trop personnelles au sujet de sa foi. Il ne veut pas trop parler de ce qu'il vit, ni à la famille, ni aux amis, ni au patron, ni aux voisins. Parce qu'un fan, il aime l'image de Jésus, il aime les grâces, il ne faut pas trop qu'après il soit persécuté. Un fan aime les bénédictions sans la persécution. Un disciple embrasse les deux.
Wow.
Un fan admire Christ. Il aime. Écoutez, un fan aime le lifting. Le disciple aime une transformation. Un fan te dit. Ok Jésus, tu viens mais tu ne changes pas trop les choses. Hein. Tu rigoles ou quoi? Quand Jésus rentre dans une vie, il rase la maison. Il reconstruit quelque chose de neuf, de beau, de nouveau, de totalement différent. Oh là, pas d'amen, ça, c'est ce que je pensais ça. Mais un fan, il dit Jésus, rentre chez moi, écoute, tu changes quoi? Un peu de le clair du mur? Tu changes le tableau? C'est bon? La table, ok, bon la table, c'est pas grave. Le disciple, il dit prends tout Seigneur. Un ami à moi, je vais taire son nom, jeune chrétien, il a toujours été un gars que je connais pour être totalement franc, parfois brutal, plus brutal que franc, mais franc. Et un jour, on est dans l'adoration et on chante le cantique « Oui, prends tout, Seigneur !» Tout le monde que ça ?« Oui, prends tout, Seigneur !» Et là, il chante, et après moi, il dit « Oui, prends tout, Seigneur, mais pas mon argent. Oui, prends tout. » Mais à haute voix. Et là, je regarde le gars, je fais « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit, j'arrive pas à être hypocrite, moi, c'est n'importe quoi ce chant-là. Comme ça, à haute voix, je fais... Et là, Dieu me dit, mais au moins, lui, il est vrai. Et t'avais 200 personnes dans la salle, oui, prends tout, Seigneur. Et tu vois, après le dimanche, c'est fini, hop, 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 on fait notre truc. Et lui, il dit, mais pas mon argent, Seigneur, mais à haute voix. Et ça m'a touché, je me suis dit, mais waouh, mais c'est quoi c'est ça la vie chrétienne. Un fan aime tout ce qui se passe dans son cœur, qui lui fait du bien, mais il n'aime pas trop être repris. Un fan n'aime pas être confronté. Il aime être cajolé. Dieu est un Dieu du réconfort, mais pas du confort. Quand Dieu te parle, tu n'es plus confortable. Mon ami, vous êtes tous là, c'est bon, tout le monde est vivant. Si tu aimes ton confort, tu choisiras une vie de fan. Bonjour. Et si tu aimes la vie que Dieu a à t'offrir, peu importe le prix à payer, tu deviendras un disciple. Voici une question que j'aimerais que vous puissiez vous poser, s'il vous plaît, d'accord? Posez-vous-même vraiment là la question suivante. Quel est le niveau d'interférence de Jésus dans ma vie? J'ai pas dit l'interférence, on le dit Seigneur, ok c'est dimanche matin, on a 30 minutes, fais-moi du bien, guéris-moi, touche-moi, sauve-moi, lave-moi, amen. Ça, c'est super, c'est beau, Jésus nous aime. Je te parle du niveau d'interférence où tu te lèves le matin, tu dis, bon, ok Seigneur, est-ce que tout mon argent est vraiment à toi? Est-ce que toutes mes relations sont validées par toi? Est-ce que toutes mes paroles te glorifient? Est-ce que mon cœur est pur devant toi? Interfère dans ma vie. Et des fois, je prie pour une dame, la pauvre dame, je l'aime de tout mon cœur. Elle est membre de l'église et puis, tu sais, elle vient me voir deux ou trois fois, mais vraiment, sa requête est dangereusement à côté de la plaque, comme on dit chez nous. C'est pas une prière, c'est grotesque. Mais elle est vraiment sincère, elle est sincèrement dans le faux, mais elle est sincère. Et là, elle me dit, mais moi, je refuse de pardonner parce qu'il m'a fait trop de mal, tout ça. Et j'explique, tu sais, le pardon, là, je suis pastoral. Je suis pastoral pendant 7 minutes. Et j'explique, tu sais, le pardon. Non, mais moi, je refuse quand même. Je dis, ok, je peux prier pour toi? Oui, prie pour moi. Seigneur, viens la tourmenter pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle pardonne. Amen. Et je suis parti. Et là, je fais, quoi, me tourmenter? Dieu va te tourmenter par son amour tous les soirs. Tu ne dormiras pas jusqu'au pardon. Je viens de libérer une prière d'interférence. Deux semaines plus tard, elle m'appelle en pleurs. J'abandonne, je veux pardonner. Je dis, oh, mais c'est bien, voilà. Mais c'est bien. Parce qu'une interférence puissante de Jésus dans ta vie aujourd'hui garantira le ciel. Mais refuser ou limiter son interférence peut nous conduire à vivre un enfer, à faire vivre un enfer, parce que ceux qui vivent un enfer font vivre un enfer aux autres. Hein. C'est juste connecté. Et l'homme blessé blesse les autres, et la femme offensée offense les autres. Et quand Dieu ne peut plus interférer vraiment avec nous par sa parole et son esprit, on est en grave danger. Sûrement on ira au ciel. Par la grâce, j'espère que ceux qui sont vraiment sauvés sont sauvés pour l'éternité. C'est un grand débat. Mais peu importe. Mon but, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, Dieu cherche une église de disciples. Rappelez-vous, il y avait une foule de gens. Jésus dit, wouh, j'ai réussi, pasteur Werner, on a réussi. On a 5000 personnes dans l'église, c'est bon. Il y a des mois de ça, j'étais avec Luc Dumont, l'ami Luc Dumont, que vous connaissez, je pense, ici. Et on a une soirée de fou à l'église. On finit tard. On a fini à minuit. On a eu 5h ou 6h de fête dans l'église. Je dépose Luc à l'hôtel et je rentre chez moi et je parle de voix. Je dis, Seigneur, on a eu une soirée de fou, on ne se trouve pas. Et là, j'entends le Seigneur avec amour et fermeté me dire, mais mon fils, ce qui me touche ou me réjouit ou ce que je valide n'est pas que l'église ait eu une bonne soirée. Ce qui me prouve que mon église avance selon mon cœur, c'est que les gens qui fréquentent cette église locale, c'est le peuple, a une vie transformée. C'est super d'avoir des super chants, mais il faut être un super mari. Five point. Et là, vous connaissez, Jésus dit à Nicodème, on peut le lire, mais dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Écoutez-moi bien, c'est très important. Il faut que tu naisses de nouveau. À chaque fois, en tant que pasteur, que les chrétiens viennent me voir, les pasteurs, c'est plus fort que moi. Je suis né comme ça. Là, je dis, tu es né comme ça? Oui, je suis né comme ça. Je fais, mais tu es né de nouveau différent. Ah ouais? Ah oui. La nouvelle naissance annule la première naissance. Le nouveau caractère donné à la nouvelle naissance annule le vilain caractère reçu à la première naissance. Oh, il n'y a pas trop d'amen là. Hein, parce que l'excuse vient d'exploser, tu vois. Je suis né comme ça. Non, tu es né comme ça, mais tu ne veux pas naître de nouveau. Si, si. Bon, voilà. Naître de nouveau, c'est accepter une nouvelle vie, un nouveau sang, un nouveau règne, un nouveau maître. Tout est différent. La Suisse, vous avez une culture, moi je trouve, hein, l'une des meilleures cultures au monde. Un ou deux défauts. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup la Suisse. Vous avez cette paix, c'est top. Mais, peu importe la qualité de la culture suisse, elle ne sera jamais à la hauteur de la qualité du royaume de Dieu. Et le danger, c'est de choisir la culture suisse et d'intégrer un petit peu de culture du royaume dedans. Alors qu'en fait, Dieu veut qu'on laisse la culture du royaume totalement inondée, saturée ou même transformer toutes les cultures. C'est ça qu'il dit, que dans l'église, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tout ça, c'est fini. Il y a des disciples de Christ. Et c'est important de penser comme ça. Tout le monde va bien, ça va? Donc rapidement, j'aimerais vous montrer quelques points importants sur le disciple, sur les fans et vous montrer un peu où on en est. Et rappelez-vous, moment de vérité, on va jauger ce matin où nous en sommes sur l'échelle du disciple. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu es un disciple ? D'accord, trois personnes commencent à jouer le jeu. Est-ce que tu es un disciple ? Alors, comment savoir ? Qui veut savoir la première chose à savoir pour savoir si on est un disciple ? Qui veut savoir ? Vous êtes prêts ? Trois personnes, comme le dire. Un disciple est un disciple s'il fait des disciples. Sinon, il n'est pas un disciple. C'est un petit peu abrasif, hein? Puisque un disciple marche sur les traces de son maître, imite le Christ, fait ce que Jésus faisait et enseigne ce que Jésus enseignait. La plupart des gens de l'Église, dont même moi je suis le pasteur, auraient beaucoup de mal à citer les passages les plus puissants de Jésus-Christ sur terre. Très peu de chrétiens lisent les paroles en rouge, déjà. Donc je ne sais pas ce qu'on enseigne aux gens. Mais quand Jésus a dit « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit », il n'a pas dit « Enseignez-leur à observer les super messages du pasteur Bruno Picard ». Il a dit « Enseignez-leur à observer ce que Jésus leur a dit ». Donc déjà, il faudrait qu'on arrive à tous se reprendre, dire « Ok, Seigneur, c'est bon d'avoir des bons messages, c'est bon d'écouter Nicolas Lehmann, pasteur Werner, Jean-Luc Traxel, tout le monde, c'est super, c'est génial, il faut ». Mais rien ne remplace quand un chrétien demeure dans la présence de Jésus, qu'il lit la parole de Dieu, qu'il lit la vérité, qu'elle devienne une réalité en lui et qu'il redonne ce qu'il a vécu lui à d'autres personnes, ça fait un impact totalement différent. Il y a des vrais disciples qui font des disciples. Mais nous, ce que l'on fait, on crée des écoles de disciples. C'est pas mal, mais c'est pas le top de Dieu. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui que les écoles de formation de disciples, c'est exactement comme un orphelinat. Hein ? L'orphelinat n'est pas le plan ultime de Dieu. Les orphelinats existent parce que beaucoup de familles chrétiennes n'ouvrent pas leurs portes pour recueillir les enfants sans parents. C'est tout silencieux là. Je veux dire que les écoles de disciples existent parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas des disciples. Si le chrétien fait un disciple, pourquoi avoir une école de disciples? Et qu'est-ce que nous on dit? On se dit, bon, les nouveaux, tu es nouveau, va à la formation des nouveaux. Mais en théorie, n'importe quel nouveau devrait être formé par n'importe quel chrétien. En théorie biblique, si tu as 2 jours de vie chrétienne, tu peux t'occuper d'un chrétien qui a 1 jour de vie chrétienne. Oh là là. Le dimanche comme ce matin, la plupart des églises aujourd'hui pensent que le dimanche comme aujourd'hui est une réunion aussi d'évangélisation et c'est super si tu es là pour la première fois, sois le bienvenu, j'aurai la joie de prier pour toi dans un instant. Mais le plus important, c'est qu'on croit, nous les chrétiens, que le dimanche est fait pour que le pasteur sorte le message le plus ouf de la terre pour que le nouveau copain que j'ai emmené se convertisse. Alors qu'en théorie, pas du tout. La théorie biblique veut que le dimanche matin, le ministère enseigne à toute l'église comment être équipé pour faire leur ministère. Et les nouveaux qui débarquent sont déjà chrétiens. Parce que les chrétiens les ont gagnés dans la semaine en leur disant, viens voir ta nouvelle famille aujourd'hui. Mais nous, nous pensons que être chrétien signifie emmener quelqu'un à l'église pour que le groupe de louanges et le pasteur fassent leur meilleur message et chant de la journée, touche la personne, et voilà les chrétiennes, j'ai fait mon job. Je fais mon travail. Quoi ? Ton travail n'est pas d'emmener quelqu'un à l'église. Tu es l'église. Ton travail est de faire des disciples. Ça commence par prêcher l'évangile du salut, l'évangile du royaume, prendre soin de quelqu'un, injecter la vie de Christ dans la personne et prêcher la parole de Dieu, partager les versets, partager la prière. Mais quand on commence à faire ça, si chaque chrétien ici s'occupe d'une nouvelle personne par an, si chaque chrétien, on vient à l'église avec plein de nouveaux, hey, regardez les gars, j'ai tous mes nouveaux frères. Voici la famille, voici les nouveaux frères et sœurs, on est tous là, et waouh! Mais nous, on est devenus des fans. Les fans parlent de Jésus. Les fans connaissent plein de choses sur Jésus. Les fans ont le t-shirt. Les fans ont l'autocollant du poisson. Écoutez ça, Jacques 2. Jacques, il est... Qui connaît l'apôtre Jacques? L'apôtre Jacques, il est trop cool. Il commence sa lettre en disant, ouais, je paraphrase, hein, mais si vous avez des moments difficiles en ce moment, je vous garantis, tout le monde passe par là. Suivant. Lisez Jacques. Il dit, soyez heureux, si vous traversez une persécution, tout le monde passe par là, hop, 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 on y va. Et en fait, la persécution, c'est bien, parce qu'en plus, si tu galères et que tu restes constant dans la galère, tu auras plus d'endurance, plus de foi, plus de puissance. C'est en train de dire, tu sais, la persécution te fait changer d'une apparence de chrétien à un vrai disciple. Waouh, le pasteur Jacques, il est très gentil quand tu parles comme ça. Et là, il poursuit, Jacques 2, il poursuit, qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Oh, mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou qu'une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà, l'un de vous lui dit, au revoir, mes amis, portez-vous bien. Oh, restez au chaud et bon appétit. Sans leur donner de quoi pouvoir pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre a les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Et là, il dit une phrase qui, tout d'un coup, juste après, me fracasse. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Dans ce paragraphe sur « Vie une vraie foi », il dit « Sinon, tu es comme les démons. » Je n'ai pas dit « Tu es un démon. » Relax, on est frères et sœurs en Christ. Mais on est comme les démons qui croient en Dieu, mais ils tremblent. Nous, on croit en Dieu, on ne tremble même pas. Mais en plus, on n'agit pas. Et vous savez, je suis maintenant partisan de revenir à une église ou de devenir une église qui bien sûr est rempli de grâce, d'amour, de joie, de fun, de bonté, c'est génial, mais il faut aussi une église qui dit la vérité avec sérieux, avec efficacité. Parce que l'amour sans la vérité, c'est de l'hypocrisie. Tout comme la vérité sans amour, c'est du légalisme. Mais Jésus-Christ est amour et vérité. Tu ne peux pas dissocier les deux. Croire en Jésus, donc, c'est avoir des actes concrets. Moïse a cru en Jésus, bam, il est allé voir Pharaon. Noé a cru en Dieu, a cru en Jésus, il a fait une arche. Moi, j'imagine Noé. Salut mon fils, fait une arche. Ok. Il n'est jamais plus. Il est loin de l'océan. Il sait pas quoi. Il invente le concept du bateau. Pour les animaux, j'imagine les deux fourmis débarquées. Des fois, vous savez, on lit. Si Jésus devait nous demander de bâtir une arche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Mon point, c'est que allons se poser une question sincère ce matin. Quel est le niveau d'interférence de Dieu dans ma vie? Et d'après vous, rapidement, quel est le but ultime de Dieu dans nos vies? Très souvent, on prêche, nous les pasteurs, on prêche la victoire. Mais laissez-moi vous dire ce matin que la victoire n'est pas le but de Dieu pour un chrétien. Ah bon? Paul était en prison. Et il dit, réjouissez-vous. Et il écrit la Bible. Imagine le diable en train de dire, c'est bon, j'ai eu Paul, j'ai enfermé Paul en prison, j'ai gagné la bataille contre Paul. Paul est en défaite devant les hommes. Mais il est en train d'avoir la victoire la plus puissante du monde entier. Lorsque Satan a vaincu, entre guillemets, Paul en le mettant dans une prison, en pensant limiter son influence, il a multiplié son influence. Parce qu'il a écrit les lettres les plus puissantes qui sont devenues la Bible en prison. Le but de Dieu, écoutez-moi bien, je sais que ça va agacer un ou deux personnes, mais c'est pas grave. Le but de Dieu pour un chrétien n'est pas de te donner tout le temps des victoires. Parfois, Dieu va te donner une défaite. Oh, faux prophète, ah non. Il va te donner des défaites et des victoires et des échecs. Il va les permettre. Vous savez, comment ça, Dieu donne une défaite? Bien sûr, Dieu peut dire, écoute, sur ce coup-là, mon fils, tu as vraiment fait un mauvais choix, je t'aime. Tu vas d'abord encaisser la conséquence. Une fois que tu auras bien compris la leçon, on y va encore. Et ça, nous, on ne pense pas comme ça, on ne pense pas comme ça. Mais le but de Dieu n'est pas qu'on soit tout le temps victorieux. Le but de Dieu, qu'on soit transformé en l'image de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a déjà eu sur terre ce que j'appelle moi un échec habituelle que nous pourrions vivre. Est-ce que Jésus a déjà eu sortir des échecs? Bien sûr. Il arrive dans son propre village, les gens disent, c'est pas le fils du charpentier, c'est pas le fils de Joseph. Et la Bible dit qu'il ne put faire ici que très peu de miracles à cause de leur incrédulité. Comme si Jésus, le fils de Dieu, ne pouvait pas avoir toute puissance ce jour-là. Il était tout puissant, il n'a jamais changé, 100% homme, 100% Dieu. Mais tout ça, il l'a vécu pour nous montrer. Arrêtons de vivre dans ce que j'appelle le la-la-land. La-la-la, tout va bien, tout est facile, tout est cool. Non, on sait très bien que c'est faux. Apprenons à voir que ce que Dieu recherche, c'est que nous ressemblions à Jésus-Christ, et un disciple est capable de faire la différence. Un disciple veut vivre tout ce que Dieu a pour lui, alors qu'un fan choisit. J'ai écrit ici, un fan, c'est écrit où ça? Voilà. J'arrive. Les émotions forment et façonnent l'univers du fan. Mais les actes d'obéissance édifient et établissent les fondements du disciple. Je redis ça? Je pense que c'est fini. Les émotions forment et façonnent l'univers du fan, mais les actes d'obéissance établissent les fondements du disciple. Ce qui caractérise un disciple, ce n'est pas qu'il est privé d'émotions, il a des émotions, mais il n'est pas conduit par ses émotions. Un disciple est conduit par son alliance avec Dieu. Un fan est conduit par ses émotions. Vous me suivez, les amis? Donc Christ, aujourd'hui, veut nous dire clairement et puissamment qu'il cherche des hommes et des femmes qui vont payer un prix, le prix, qui vont se lever en disant « Nous voulons la Suisse pour Jésus ». Et je peux vous dire ce matin de tout mon cœur en tant qu'ami et prophète, laissez-moi vous dire la vérité, mes amis, s'il vous plaît. La meilleure et la seule méthode pour gagner un pays pour Jésus, c'est de faire des disciples. Il ne suffit pas d'avoir des grandes conférences. Et gloire à Dieu pour les grandes conférences. Mais si les gens pensent que de faire des grandes conférences en grandes conférences en grandes conférences font des disciples, ils se trompent. Le vrai disciple est taillé quotidiennement, continuellement, dans la présence de Dieu, par des actes vivants, physiques, que les premiers bénéficiaires sont les épouses ou les époux ou les enfants. Vous pouvez applaudir, ça m'encouragerait aussi. Amen. Et donc tu dois savoir... Moi, tous les semaines, je dis à mon épouse, est-ce que je progresse avec toi? Est-ce que je suis un meilleur mari aujourd'hui qu'il y a 15 ans? Malgré ma perfection, dis-moi. Ah, elle me répond, chérie, avec un tout petit peu d'humilité, tu serais parfait. Je dis, ok. Non, sérieusement. Et si ce matin, on se posait les vraies questions? Si ce matin, on se disait, c'est super d'avoir la puissance, le feu, c'est génial ça. On gagne des âmes, c'est top. Moi, pendant les années, mon rêve était d'avoir un ministère et tout le monde parlerait de moi et j'aurais un magazine Bruno Picard. C'était mon rêve. Et puis Dieu a écouté ma prière, j'ai dit « Seigneur, prépare-moi pour cela. » Aïe, aïe, aïe. Il m'a carrément fracassé. Dieu va toujours disqualifier les qualifiés pour les requalifier. Dieu cherche maintenant même, ce matin, un peuple. Des maris et des femmes qui vont se dire, j'arrête d'être en contrôle de ma vie. Je ne veux pas être juste un fan qui aime Jésus, qui va au ciel. Je veux être un disciple. Dieu cherche des femmes qui arrêtent de dire, Dieu est en premier, sauf dans les finances. On ne va pas lever la main ce matin, d'accord, mais en France, c'est catastrophique. Le nombre de chrétiens qui donnent des pourboires à Dieu. Le nombre de chrétiens qui n'arrivent pas à mettre Dieu en premier dans leurs propres finances. Si tu ne donnes pas tes premiers fruits à Dieu, ne viens pas me dire que Dieu passe en premier. Traite-moi de légaliste, ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Mais si Dieu passe en premier, il passe en premier dans tout. Quand les jeunes femmes viennent me voir, « Pasteur, moi je suis amoureuse du gars, le gars n'est pas chrétien, mais Dieu va le toucher, en fait je suis une nouvelle évangéliste. » Dieu se servira de moi pour le gagner à Jésus. Moi, je dis non, arrête de dire n'importe quoi, fais pas ça. Si le gars se donne à Jésus-Christ vraiment et qu'on l'a testé pendant 40 ans, c'est bon. Fais ta vie selon la parole de Dieu. Et là, ah, mais tu es sectaire, tu es trop rigide. Comment ça, je suis sectaire? J'essaie juste d'appliquer ce que la parole de Dieu enseigne. On appelle ça être un disciple. Je n'ai pas dit juger les gens, je n'ai pas dit être supérieur, pas du tout. Mais à chaque fois que Dieu nous parle, il ne nous parle pas pour nous donner un bon poème. Beaucoup de chrétiens considèrent la voix de Dieu et sa parole comme un beau poème. Oh, c'est beau, waouh, c'est beau. Ouh. Non, ce sont des ordres de mission, des directives précises, des commandements. Entendre la parole de Dieu, c'est un commandement. Entendre la parole de Dieu, ça nous pousse à l'action. Alors ce matin, ma question c'est, est-ce que ta vie, ma vie, est labellisée fan ou disciple? Est-ce que ma femme peut dire, mon mari, mon homme, est un disciple de Christ? Est-ce que si elle me suit, elle ressemble plus à Jésus? Si mes enfants me suivent et m'imitent, est-ce qu'ils ressemblent plus à Jésus? Si les gens qui viennent ici à Auron débarquent à Auron dans les prochaines semaines, est-ce qu'ils vous fréquentent, s'ils nous fréquentent plus, est-ce qu'ils seront plus comme Jésus? Peut-être vrai ce matin? Combien de gens vont venir ici et en nous fréquentant, ils vont plus ressembler à Jésus? C'est ma dernière question ce matin. Pas si le band peut venir rapidement, c'est possible? Le groupe de louanges peut venir pour moi? Gardez-moi encore quelques secondes si possible. Mais non, le band peut venir, merci. Mais vous gardez, voilà, c'est ça. Ok, vous êtes prêts? Qui, dans ce lieu ce matin, veut réellement ressembler à Jésus? Une question bête, hein? On est prêts? Bon, regardez bien la main, ok, d'accord? Bon. Parmi ceux qui ont la main levée, gardez la main levée, s'il vous plaît, quelques secondes, ça vous fera du bien au sang dans le corps. Qui sait à quoi ressemble vraiment Jésus? Non, on peut être franc quelques secondes. Combien d'entre nous passons du temps réellement à écrire scrupuleusement à quoi ressemble Jésus-Christ réellement? Son caractère, ses qualités, ses... Si je dois ressembler à quelqu'un et je ne sais pas à quoi il ressemble, le fondement de notre vie chrétienne, c'est de savoir tout ce matin, si on est tous des chrétiens qui aimons Jésus, on doit savoir à quoi il ressemble. On doit savoir ce qu'il dit. On doit savoir comment il pense. Et vous le savez très bien, Jésus-Christ n'est pas un Suédois blond aux yeux bleus. Et nous, on a cette image de cet homme, les cheveux longs, la barbe, les yeux foncés, la peau mate. Ok, c'est Jésus, Israël, d'accord. Non, mais je ne parle pas de ça. Je parle à quoi ressemble Jésus dans l'esprit et comment... À quoi ressemble Jésus? Je veux ressembler à Jésus, mais à quoi ressemble Jésus? Ce matin, je vous soumets à une requête de prière en tant que pasteur et leader. Priez pour moi, pour que je ressemble à Jésus. La plus belle prière que fait le peuple de Dieu pour moi en ce moment et pour toute l'équipe pastorale, la prière qui vient de mes enfants, c'est qu'en ce moment, la plupart des gens que je fréquente, à qui j'écris, je leur demande de prier pour que je ressemble plus à Jésus. Pas pour que j'ai un meilleur ministère, pas pour que j'ai une plus grande influence. Tout cela, c'est secondaire. La vraie requête de prière de mon cœur aujourd'hui, c'est que je ressemble plus à Jésus. Dans mon caractère, dans ma façon de faire les choses, dans ma franchise et ma vérité, dans la parole que je connais, la parole que je pratique, allons ressembler à Jésus. Et là, on commencera à être un disciple. Et là, naturellement, tu as envie de faire des disciples si tu veux ressembler à Jésus. Les fans doivent être motivés. Les disciples, pas la peine. Le disciple, pas la peine. Le nombre de pasteurs qui me disent, Bruno, tu sais... Prie pour moi, il faut que je motive le peuple à venir servir pour ranger les chaises, passer le balai. Il faut motiver les gens pour arriver à l'heure, il faut motiver les gens. Je dis, mais c'est... on a un groupe de fans, quoi. Parce que les disciples, pas la peine de les motiver. Ils sont motivés par l'amour. Ce matin, je ne vais pas être long, parce que j'ai 2 minutes 30, mais franchement, j'ai eu très peu de temps pour vous emmener ce que Dieu voulait dire, mais j'espère que vous avez compris le cœur du Père ce matin pour vous. Parce que votre Église a un appel extraordinaire. Vous avez une mission capitale pour la Suisse et pour la francophonie. et vous ne pouvez plus aujourd'hui, je vous dis que tout l'amour que j'ai pour vous, vous ne pouvez plus vous contenter d'excellentes conférences, d'excellents invités, de bons groupes de louanges, de bons messages. Vous ne pouvez plus vous contenter de cela, mes amis, aujourd'hui. Vous ne pouvez plus, et vous ne devez plus le faire. Vous devez embrasser, célébrer tout ça, mais vous devez vous dire, Saint-Esprit, je veux être un vrai disciple de Christ. Je veux aller dans les rues, je veux aller voir ma famille, je veux marcher, je veux dire, c'est waouh! Je veux vivre ce que Christ a pour moi. Ce matin, est-ce qu'on peut prier ensemble avant que je parte, ou que je vous laisse rentrer chez vous et... Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin, Église? Qui se sent convaincu par le Saint-Esprit qui dit, moi, tu sais, ça me parle, je veux changer de vie là, je veux changer radicalement de dimension. Je veux changer de dimension. Donnez-moi quelques secondes pour dépeindre rapidement, en quelques secondes, à quoi pourrait ressembler un disciple. Par exemple, lorsqu'on est dans l'adoration à la louange, par exemple. Vous savez, beaucoup de chrétiens d'église, en Suisse, en France, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui louent Dieu à leur façon. Ça, c'est pas un disciple. Un disciple va louer Dieu à sa façon. Si Dieu, par exemple, dit que dans l'adoration, on se prosterne, ou dans la louange, on danse, on bouge. Ça, c'est la louange à la façon de Dieu. Rappelez-vous, un disciple fait les choses à la façon de Dieu. Un fan fait les choses à sa façon. Il y a des gens, quand ils louent tellement Dieu, c'est tellement puissant et rapide qu'on ne voit pas leur corps bouger. Flash. Il y a des gens qui me disent, mais moi pasteur, je suis pas comme toi, je suis pas extraverti, moi je bouge le doigt de pied gauche. Et déjà là, c'est beaucoup pour moi. Et je dis au gars, mais je comprends, mais David et la parole nous enseigne comment on loue Dieu. J'essaie de vous montrer comment c'est tellement simple de s'éloigner de sa parole. Quand la Bible dit louer l'Éternel et pousser des cris de triomphe, il ne dit pas oh sauf les Suisses et sauf les Français. Il ne dit pas ça. Il y a les standards de la parole. Et un disciple va toujours essayer de dire qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Comment Dieu fait les choses? Comment Jésus fait les choses? Comment Jésus marche? Comment Jésus danse? Comment Jésus parle? Comment? Comme disait mon frère hier, il a eu une très 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 bonne session. Jérémy, lorsqu'il a parlé, il dit, comment Jésus prophétisait? C'est une très très bonne façon d'aborder la parole de Dieu. Comment Jésus faisait les choses? C'est ça qu'il faut faire. Tu lis la parole, tu fais comment Jésus abordait les gens. Et tout d'un coup, ça devient simple. Tu imites Jésus, pas besoin d'avoir 36 000 les formations. Tu imites Jésus, bam! Rare Bonquet a dit la chose suivante. Il a dit, j'aime cet homme de Dieu. Hein. Il a dit, si nous voulons avoir les fruits de l'église primitive, nous devons faire ce que l'église primitive faisait. Simple. Et un jour, une femme vient le voir et dit, Monsieur Renard Bonquet, je suis un peu frustré parce que Dieu s'occupe pas de moi en ce moment et je veux savoir, comment vous choisissez vous les gars de votre équipe et pourquoi ils sont avec vous et pas d'autres? Comment vous faites? Et pourquoi est-ce que Dieu ne se sert pas de moi et sert de vous? Et elle dit ça à Renard Bonquet. Renard Bonquet lui dit, bon, écoute-moi. Imaginons que tu veuilles faire une tasse de thé. Tu prends ta casserole d'eau, tu allumes le feu sur un des feux, et tu arrives avec la casserole d'eau, et tu passes la casserole d'eau sur le feu ou sur la plaque non allumée? Sur le feu éteint ou sur le feu allumé? Elle dit, ben, sur le feu allumé. Elle dit, ben, Dieu, c'est pareil. Dieu ne travaille qu'avec les chrétiens bouillants. Fin de l'histoire. Avant de venir, la veille de mon départ, ma grande fille Lisa, 14 ans, vient me voir et dit, papa, je suis saisi d'une crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Je dis, pourquoi ma chérie? Je viens de lire Apocalypse 3 où Jésus, l'amour, Jésus dit en face, il dit, je vous vomirai de ma bouche si vous êtes tiède. Papa, je veux pas être tiède. Je dis, ben, c'est bien ma fille, sois en feu. Ce matin, Dieu est en train de te dire, arrêtons, si c'est votre cas, moi je parle pour moi, arrêtons les belles prières, arrêtons tout ça, c'est super, mais arrêtons tout ça. Allons réellement devenir tout ce que Jésus veut que nous devenions. Allons des disciples de Jésus-Christ. Ça vous va ça? Qui, dans ce lieu ce matin, avec moi, veut être un disciple de Christ comme jamais auparavant. Se mettre debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le roi des rois, si possible? Saint-Esprit, maintenant même, tu es dans ce lieu. Saint-Esprit, tu aimes ce peuple. Ils font déjà un travail extraordinaire. Ce message est pour moi en premier, Seigneur. Je sais que nous faisons des choses pour toi. On t'aime, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu ne nous parles pas de notre niveau d'amour dans le sens émotionnel. Tu nous parles de notre consécration réelle au quotidien. Tu nous parles de cette vie où tout d'un coup on se dit, il y a un moment de vérité, tout d'un coup on se dit, ok, je suis prêt à manger ton corps, à boire ton sang. Je suis prêt à te servir, je suis prêt à faire les choses à ta façon. Je suis prêt à te suivre, quoi que tu me demandes de faire. C'est ce genre de vie chrétienne que Dieu demande à son peuple. 90% d'obéissance, c'est de la désobéissance. Ce matin, Dieu appelle son peuple à se dire, Saint-Esprit, prends tout, consume tout, mets-moi en feu. Ramène le feu dans ma vie, ramène la passion dans ma vie, ramène un désir ardent de faire tout selon toi. Avec amour et passion et joie. On veut pas être des fans, on veut être des disciples de Christ. On veut pas juste se contenter d'avoir des bons moments à l'église le dimanche, on veut être l'église tous les jours. Que ton amour déborde de nos vies, que les fleuves d'eau vive débordent de nos cœurs maintenant même. Et Saint-Esprit, je te prie et je te demande humblement, je te remercie que tu bénisses ce peuple maintenant même. Que tu les satures d'une onction particulière, que tu viennes les provoquer comme jamais. Que dès aujourd'hui, même dès ce soir, dans leurs rêves, dans leur vie de prière, tu viennes leur parler comme jamais. Que tu leur montres les cibles de ton amour, que tu guérisses les cœurs qui sont offensés, qu'ils abandonnent l'offense maintenant. Car tous nous savons que l'offense est un événement, mais rester offensé est un choix. Mais ce n'est pas le choix du disciple. Le disciple ne peut jamais rester offensé. Ce matin, Seigneur, je prie pour que ton autorité sature ce merveilleux peuple. Je te remercie que dès maintenant, dans l'esprit, tu mettes tellement d'amour et d'ordre que chaque membre de ce corps de Christ ici présent, dès demain matin, voit des fruits. Dès demain matin, commence à se dire, j'aime mes voisins, j'aime mon patron, j'aime mes ennemis. Que dès demain matin, il y a l'autorité qui se manifeste et qu'elle ira crescendo, grandissant au fil des semaines et des mois. Je prie pour que l'église de Rouen dans un an est doublée. Non pas juste doublée par le nombre de gens qui vont la fréquenter, mais doublée en nombre de disciples parce que l'église de Christ aura commencé à briller comme jamais autour d'eux. Je prie pour qu'il y ait une onction particulière sur la restauration des relations ce matin même. Saint-Esprit de Dieu, viens saturer ce peuple maintenant même. Viens saturer chaque leader. Que chacun puisse se dire, Seigneur, j'abandonne ma propre volonté, je choisis la tienne. J'abandonne mes propres plans, je choisis les tiens. Que cette église ici soit saturée d'une magnifique, sérieuse, véritable crainte de Dieu. Et Seigneur, voici ma prière la plus radicale de ce matin. Je la fais avec tout l'amour et le respect que j'ai pour ce précieux peuple. Viens les tourmenter dans ton amour. C'est-à-dire, viens tellement, comme tu l'as fait pour Paul, tu l'as dit à Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Seigneur, viens continuellement nous montrer ce qu'il faut que nous changions. Viens continuellement nous remplir de sagesse et de puissance. Viens continuellement nous transformer. Tu ne veux pas faire un lifting, tu veux transformer ton peuple. Tu ne veux pas juste donner des bons moments, tu veux changer la vie de ton peuple. Ce matin, je laisse ce peuple avec cette réflexion. Et cette décision, fais de moi un disciple de Christ qui fait des disciples de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit bien fort. Amen. Merci beaucoup.